puits de Jacob. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif.
Les Actes des Apôtres, deuxième émission. Après avoir eu une vision d'ensemble sur les Actes des Apôtres, découvrons par étapes, avec le Père Vallet, la richesse de ce texte biblique. Bonjour Père.
Bonjour Anne.
Pouvez-vous nous rappeler quel est le plan d'ensemble du livre des Actes des Apôtres ?
Oui, vous avez raison, c'est là qu'on s'était quitté la dernière fois et nos auditeurs ont peut-être un peu oublié et j'espère que certains ont des cartes géographiques aussi sous les yeux, par exemple dans les dernières pages de leur Bible parce que ça aide vraiment à s'y retrouver. D'autant plus que le plan du livre reprend un peu un plan de déplacement et que ce plan de déplacement, il a été lui-même annoncé par le Christ, hein, c'est le verset par lequel on avait fini notre émission, chapitre 1, verset 8, le Seigneur annonçant que la puissance de l'Esprit allait faire que ses apôtres se déplacent par cercles concentriques jusqu'aux extrémités de la terre, et ce sont un peu ces cercles-là qui constituent le plan du livre lui-même, avec un premier temps où finalement tout le monde reste à Jérusalem, chapitre 1 à 8. Dans un deuxième temps, on s'éloigne un peu pour aller vers la Samarie, juste au nord, la côte aussi sur le flanc ouest, ce sont les chapitres 8 à 12. Et puis après, il va y avoir vraiment un élan, grâce à Paul, à Barnabé, un élan qui va pour le moment rester en Asie, jusque dans la province d'Asie, au sens romain du terme, ce seront les chapitres 13 à 15. Et puis là, il y aura encore un nouveau tournant, on aura le temps d'y revenir, pour que Paul ensuite et ses compagnons fassent deux grands voyages missionnaires qui vont les conduire jusqu'en Europe. Ça sera la quatrième partie du livre, chapitres 15 à 21, et enfin une dernière partie du livre, toujours autour de Paul, mais depuis son arrestation à Jérusalem jusqu'à Rome avec tout un tas de pérégrinations. Ça sera le cinquième partie du livre, des chapitres 21 à 28. Voilà les cinq gros blocs du livre des Actes des Apôtres.
Alors, nous sommes donc à la deuxième émission. Nous allons faire quel chapitre ?
Alors, moi, je vais me laisser guider par vos questions. Anne, hein, vous connaissez ma docilité, mais j'imagine qu'on va faire dans la logique du texte aussi et qu'on va commencer aussi par au moins les huit premiers chapitres, ou peut-être un peu davantage. Parce que ce qu'on s'était dit aussi en préparant cette émission, et nos auditeurs comprendront, c'est qu'il y a l'Esprit-Saint qui est l'acteur principal, mais qui va passer aussi à travers le rôle des hommes et des femmes dont on parle dans les Actes, dont en particulier les piliers, les colonnes que sont Pierre et Paul. Et finalement, ces deux personnages définissent aussi deux parties dans le livre des Actes. Donc sans doute que vous nous entraînerez davantage au début pour la deuxième émission autour de Pierre et puis autour de Paul pour la suivante.
Alors les Actes des Apôtres commencent par la montée de Jésus au ciel, l'ascension, 40 jours après la résurrection. Alors quelle est la signification de l'ascension ?
Alors d'un point de vue littéraire, on l'avait évoqué la dernière fois, ça va faire la transition entre les évangiles, l'évangile de Luc et puis les Actes des Apôtres. Même si le récit de l'ascension n'est pas présenté de la même façon exactement dans les deux cas, puisque dans l'évangile de Saint-Luc, on est plutôt tourné vers la résurrection, on a l'impression que l'ascension va suivre pratiquement la résurrection, alors que on a davantage l'impression dans le livre des Actes des Apôtres qu'il va falloir du temps entre la résurrection et l'ascension, un temps pendant lequel le Seigneur va former ceux qui seront les apôtres, les colonnes de l'évangélisation et de l'Église. Donc on nous parle des 40 jours. Hein, 40 jours, Jésus est apparu à parler du royaume de Dieu. Donc c'est déjà la première signification de ce délai. C'est un temps de formation, de sorte que l'attachement, l'adhésion de ces personnes-là au Christ devienne totalement une adhésion de foi. Quand je dis ça, je dis aussi notre adhésion à nous, qui est une adhésion de foi, c'est-à-dire une adhésion de personnes qui n'avons pas vu physiquement. On n'a pas arpenté les routes de Galilée avec Jésus, ce qu'avaient fait les apôtres. Mais les apôtres sont invités maintenant à passer à un autre niveau d'adhésion qui est celui de la foi. Et ça nécessite de la formation et ça va nécessiter ultimement, bien sûr, le don de l'Esprit-Saint. Donc, vous voyez, avant de parler de l'ascension, déjà le temps entre la résurrection et l'ascension est un temps très important dont parlent les Actes des Apôtres. Et puis l'événement de l'ascension lui-même, effectivement, fait entrer le Christ dans son humanité, dans la gloire de Dieu. il y a quelque chose comme le terme de ce que seront toutes nos trajectoires, de pouvoir, dans notre humanité, dans notre corporéité aussi, être accueillis ainsi dans la gloire de Dieu. Et ça, le Christ ouvre la porte, le Christ montre le chemin, et c'est l'événement de l'ascension. Mais cet événement de l'ascension lui-même est inséparable de ce qui se passera et dont on aura l'occasion de reparler sans doute dans quelques minutes, qui est l'événement de la Pentecôte. Mais on a quelque chose d'essentiel effectivement à l'ascension.
Alors les apôtres retournent dans la chambre haute, le cénacle, alors ils ont peur.
Et oui, les apôtres, mystérieusement, ils se sont réjouis d'avoir vu le Christ ressuscité à plusieurs moments. Ils sont même dans une certaine joie, nous dit le texte, quand ils le voient partir. Bon, ils rentrent à Jérusalem, mais le déclic ultime n'est pas encore là. Hein. Le déclic ultime, ça sera vraiment l'Esprit Saint. Donc là, il y a quelque chose de craintif. En plus, ils savent très bien ce qui s'est passé à Jésus, donc ils ne sont pas très sûrs non plus de ce qui pourrait se passer pour eux. Ils n'ont pas encore cette ardeur apostolique, ce zèle missionnaire dont l'Esprit Saint les comblera. Ce n'est pas encore le cas. Ils ont peur. Ils attendent, mais ils attendent quand même dans la fidélité à ce que le Christ avait promis. Le Christ avait promis cet Esprit Saint, le Christ a promis d'être avec eux jusqu'à la fin des temps, donc ils n'ont pas oublié ces promesses-là, mais vous voyez, la mise en œuvre tarde un peu.
Alors Luc, à cette occasion, donne à nouveau la liste des 11. Alors, qu'est-ce que cela signifie ?
Alors il y a deux choses, il y a d'abord qu'il donne la liste, mais surtout qu'effectivement la liste ne contient plus que 11 personnes. Mmh. Et ça, le rédacteur en est conscient, mais les acteurs de cette scène-là le savent tous, et Pierre en particulier. Pierre va constater que ce chiffre-là est défaillant. Nous sommes avant la Pentecôte, et pourtant avant la Pentecôte, hein, c'est donc le chapitre 1 des Actes des Apôtres, Pierre décide, en tout cas prend l'initiative, c'est comme ça que Luc le présente, et c'est une initiative qui, semble-t-il, a été bien reçue par tout le monde, personne n'en a contesté l'opportunité. Pierre décide de compléter le collège des apôtres, de sorte que le chiffre 12 soit rétabli. Le chiffre 12, il était rétabli, mais c'est Judas, bien entendu, qui a été celui qui est parti vers sa destinée, comme on dit, et donc une élection qui s'organise pour compléter le collège, une élection qui s'organise par une sélection que la communauté présente, on en retient deux, une prière, et puis Dieu qui manifeste quel est son choix pour compléter le collège des 12, de sorte que vraiment ce chiffre symbolique que Jésus a voulu. Jésus a voulu un collège de 12 pour manifester qu'il y avait un accomplissement des 12 tribus d'Israël, qu'ils allaient être aussi là pour juger l'Église, et qu'ils continuent d'ailleurs de la gouverner, que ce chiffre-là soit retrouvé.
Et là, on voit que Pierre est nommé le premier.
Oh oui, Pierre sera toujours nommé le premier. Hein.
Donc ça montre quand même un rôle important.
Ah ben, et non contesté. Vous voyez, non seulement il est cité dans cette initiative-là, mais c'est une initiative qui est non contestée. Alors, on peut toujours dire, c'est pas impossible, hein, qu'il y a une part dans les rédactions lucaniennes de Saint-Luc, qu'il y a une part d'idéalisation de la chose, que peut-être tout n'a pas été aussi ça, mais on a les grandes lignes et on a la certitude. De toute façon, c'était déjà vrai dans les évangiles qu'à chaque fois, le collège des 12, Pierre joue un rôle particulier au sein du collège des 12. Il y a les 12, il y a même d'ailleurs les 3, puisqu'il y a Pierre, Jacques et Jean qui dans les évangiles ont un rôle particulier, et parmi ces 3-là, Pierre s'en conteste. Mais vous voyez, ce choix de Matthias avant même la Pentecôte est tout à fait révélateur. C'est comme s'il avait fallu que le collège se reconstitue comme accomplissement des tribus d'Israël pour que la Pentecôte puisse vraiment se saisir d'un groupe reconstitué.
Alors Marie est citée parmi ceux qui sont présents au Cénacle. Quel a pu être son rôle dans cette primitive Église ?
Alors, comme vous le dites, déjà, elle est là. Elle prie, elle accueille, elle attend la venue de l'Esprit Saint sur cette communauté qui s'est rassemblée. Vous avez cité la chambre haute, hein, c'est ce que dit Saint Luc. Bien entendu, quand on va à Jérusalem, on a des hypothèses qui sont assez probables de localisation de cette chambre haute, qui peut être aussi, et c'est la logique de l'Évangile puis des Actes des Apôtres, qui pourrait être aussi cette fameuse salle où le Seigneur lui-même s'est rassemblé au moment de la scène, au moment du dernier repas, où ensuite les apôtres vont pouvoir se retrouver encore un peu tremblants, et puis de moins en moins, et qui est située juste à côté d'une église à Jérusalem, église de Sainte Marie, mère de tous les peuples, je ne me rappelle plus la titulature exacte. Enfin, on est dans le même quartier. Et cette salle haute, à celle, donc celle où Marie s'est rassemblée avec les autres pour prier. Marie apparaît dès le début de l'Évangile, puisque c'est elle qui accueille la nouvelle de l'ange pour accepter donc d'être la mère du Sauveur, de porter le Verbe de Dieu fait chair, eh bien, de façon parallèle, puisqu'il y a souvent des parallélismes entre l'Évangile et les Actes des Apôtres, Marie est là, au tout début de cette communauté, pour accueillir à nouveau l'Esprit-Saint. Vous voyez, vous vous rappelez le récit de l'Annonciation, l'Esprit te prendra sous son ombre. Eh bien ici, l'Esprit va prendre sous son ombre et dans sa puissance cette communauté naissance, naissance du Christ, naissance de l'Église, et dans les deux cas, la Vierge Marie qui est là pour, alors dans un
accompagner.
Cas réalisé ou dans l'autre cas accompagner, mais l'accompagner, vous voyez, de toute sa maternité. Hein. La Vierge Marie est dite mère de l'Église, elle est mère de l'Église. Si je peux me permettre une petite parenthèse, il y a peu de temps, nous célébrions le 11 octobre le 60e anniversaire du début du Concile Vatican II, mais le 11 octobre, c'est la date qui avait été choisie par Pie XI pour fêter Marie, mère de l'Église. Si elle avait été choisie par Pie XI, c'est parce que 1500 ans plus tôt, au Concile d'Éphèse, c'est ce jour-là où la maternité divine de Marie avait été proclamée, et c'est encore ce jour-là qui avait été choisi, vous voyez, pour ouvrir le Concile Vatican II, à l'issue duquel le pape Paul VI avait reparlé de Marie, mère de l'Église, qui est une fête liturgique que le pape François a introduite de façon officielle dans le calendrier liturgique le lendemain de la Pentecôte, le lundi de la Pentecôte. C'est la fête liturgique de Marie, mère de l'Église. Donc, vous voyez, on est dans la continuité de ce qu'on vient de vivre aux Actes des Apôtres. J'ajoute cependant sur Marie dans les Actes des Apôtres que c'est la dernière fois qu'elle sera citée et qu'on la verra. Voilà, elle est là pour
Alors,
faire partir.
Vous avez parlé de l'élection de Matthias.
Oui.
Hein, donc on ne va pas revenir.
Non, d'autant plus que Matthias n'apparaît plus ensuite dans les Actes des Apôtres.
Alors, vous suivez l'émission Au Puits de Jacob, deuxième émission sur les Actes des Apôtres avec le Père Valet. Alors maintenant, on va parler justement du récit de la Pentecôte. Est-ce qu'on peut faire un rapproché, le récit de la Pentecôte et celui de Babel ?
Alors, on le peut, tout le monde l'a fait, et c'est évident, puisqu'il y a dans un cas des gens qui ne se comprennent plus, je pense au récit de Babel, des gens dont les langues sont brouillées, qui ne cherchent plus Dieu, enfin une sanction, mais au sens d'une conséquence tout à fait mortifère, d'un projet lui aussi mortifère, alors qu'au contraire, dans la Pentecôte, on a des gens qui se laissent prendre par le projet divin, non pas pour le contrarier comme dans Babel, mais au contraire pour l'épouser dans la Pentecôte, et qui, fort de cela, arrive à s'exprimer, y compris à des gens qui ne parlent pas la même langue qu'eux, et que tout le monde les comprend, chacun dans sa langue. Donc, il y a très clairement une opposition, une distinction, en tout cas un contrepoint aux deux récits. Mais il y a aussi un enracinement qui est plus profond encore, me semble-t-il, dans l'Ancien Testament, qui est le don de la loi au Sinaï. Le récit de la Pentecôte fait écho, accomplit le récit de la Pentecôte juive, puisque c'est une fête juive, la Pentecôte, et que cette Pentecôte juive, c'est le don de la loi au Sinaï, 40 jours après être sorti d'Égypte, c'est-à-dire 40 jours après la fête de libération, le peuple reçoit la loi. Eh bien, dans la fête juive, son accomplissement chrétien, c'est 40 jours après la résurrection du Christ qui célèbre sa mort et sa résurrection, qui célèbre notre libération, 40 jours après, c'est le don de la nouvelle loi, c'est-à-dire le don de l'Esprit-Saint lui-même. Donc c'est un récit extrêmement important, mais on comprend aussi pourquoi il y avait beaucoup de gens ce jour-là à Jérusalem, c'est parce qu'ils venaient pour la fête juive de la Pentecôte, et c'est passé la fête chrétienne de la Pentecôte.
Alors Pierre va sortir et va faire tout un... On va dire c'est son premier sermon.
Oui, alors on appelle plutôt ça discours, mais c'est exactement la même chose. Hein. Pierre va faire quelques discours, effectivement, dans les Actes des Apôtres. Et puis ensuite, Paul fera d'autres discours. Et Pierre va s'adresser, dès le jour de la Pentecôte, à tous ceux qui sont là, tous ses auditeurs, pour leur toucher le cœur, les bouleverser par l'annonce de ce que Jésus, justement, accomplit les Écritures et que maintenant, le Seigneur est là, l'Esprit peut les rejoindre, et de fait, nous dit le texte, beaucoup de gens sont touchés par le texte, le discours de Pierre, et vont donc ensuite adhérer massivement, adhérer à la fois personnellement, par la parole de Jésus telle que Pierre la transporte ou la transpose, et puis en même temps se constituer comme communauté suite à la parole de Pierre.
Alors après, Pierre et les autres apôtres vont, que font-ils exactement ? Est-ce que ça ne rappelle pas un peu ce que faisait Jésus lui-même ?
Si, dans la présentation que Luc en fait, il y a cette volonté-là de faire un effet miroir. Il y a ce que Jésus a fait pendant son ministère public et ce que finalement les apôtres sont aussi capables de faire. Ne serait-ce que ce discours de Pierre, et puis il y en aura d'autres, fait éventuellement un lointain écho aux enseignements du Christ. Le Christ a pris son temps pour enseigner. Ce que le Christ enseigne, c'est que le royaume de Dieu est proche. C'est que lui, par sa présence, rend proche le royaume de Dieu. Ce que les apôtres vont enseigner, ce que Pierre va enseigner, c'est que ce royaume-là est réalisé dans la personne du Christ, et donc ils ne vont plus annoncer le royaume, ils vont annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est dans les deux cas un enseignement, une prédication, mais on voit bien que Jésus annonce le royaume et les apôtres annoncent Jésus, parce que Jésus accomplit cette venue du royaume. Donc, des discours qui vont être efficaces et qui vont être accompagnés, c'est là aussi où on peut faire le parallèle, qui vont être accompagnés de miracles, de guérisons. Et c'est ce que Pierre et Jean vont faire dès le chapitre 3, si j'ose dire, du livre des Actes des Apôtres, de guérir ainsi un homme infirme de naissance, etc.
Alors Luc décrit l'organisation de cette première communauté chrétienne qui n'avait qu'un cœur et une âme. Alors comment vivait-elle ?
Il y a plusieurs moments dans les Actes des Apôtres, on a une espèce de résumé de ce qui fait le cœur de cette communauté, de ce qui fait sa vie. On appelle ça parfois les sommaires des Actes, c'est-à-dire une espèce de synthèse, de résumé de sa façon d'être, avec des éléments qu'on retrouve à chaque fois. Je pense que ça peut être intéressant quand même de les signaler. On a d'une part l'autorité des apôtres, hein, que vous venez de souligner, qui est réelle, l'autorité des apôtres qui enseigne, qui agissent, qui prennent des décisions, et on voit que c'est bien ça qui permet à l'Église de vivre. Deuxièmement, très important aussi, une vie fraternelle, les gens qui sont unanimes, simples, une vie pleine, attentive, aussi bien spirituelle que matérielle, il y a vraiment une mise en commun de toutes choses. Et puis, alors je cite dans l'ordre des versets, mais ça ne dit pas l'ordre d'importance, tout est important, et puis ce qu'on appellerait tout simplement une vie eucharistique. Les disciples rompent le pain, se réunissent ensemble pour rompre le pain, c'est-à-dire pour célébrer la Pâque du Seigneur, sa mort et sa résurrection, pour célébrer ce qu'on dirait aujourd'hui l'Eucharistie, avec une vie de prière, avec une vie de louange qui les constitue aussi comme Église.
Il y a quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, c'est le jugement de Pierre sur Ananie et Saphir.
Alors là, vous avez déjà passé, mais on ne peut pas tout voir, vous avez déjà passé deux chapitres. On est arrivé, je crois, au chapitre 5, sauf erreur de ma part. Oui. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu aussi des arrestations à deux reprises de Pierre, une délivrance miraculeuse. Donc on voit que même par rapport au parallélisme avec Jésus, il y a une animosité qui se manifeste, qui se traduit aussi par des enfermements, des emprisonnements, des sévices avec des menaces croissantes déjà. Et puis de fait, au chapitre 5, on reprend cette idée-là d'une communauté tout à fait unanime qui veut s'entraider et dont certains, personne n'y était obligé, mais dont certains viennent déposer au pied des apôtres leurs biens en vendant ceci ou cela pour que la communauté vive. Donc on a vraiment une communauté, si j'ose dire, idéale, dont tous les curés rêveraient sans doute dans leur paroisse. Hein. On met tout en commun. Bon, c'est plus une communauté de type monastique, d'ailleurs, on dirait aujourd'hui. Mais peu importe, pour en revenir à votre question, il y a là, au beau milieu du récit, comme contrepoint de cette vision idéale, il y a là un danger qui ne vient pas cette fois-ci de l'extérieur par rapport aux menaces que Pierre ou Jean pourraient subir, mais qui vient de l'intérieur par rapport tout simplement aux mensonges. Il y a une volonté avérée qu'un couple, Ananie et Saphir, viennent mentir en apportant un bien, personne ne les avait obligés, mais en mentant sur la valeur de ce bien et finalement en gardant pas mal pour eux, tout en passant pour des gens sans doute plus généreux qu'ils n'étaient. Et c'est ce mensonge-là que Pierre débusque. Et cette mise en évidence de ce qu'au sein de la communauté il puisse y avoir une telle perversion est sanctionnée non pas par un châtiment que Pierre déclencherait, mais un châtiment que Pierre constate. C'est-à-dire il constate la perversité intérieure de Saphir et d'Ananie et puis leur trahison commune. Et ce constat fait qu'effectivement, Ananie et Saphir tomberaient de mort et sont emportés séance tenante au cimetière et qu'il y a quelque chose de très brutal. Mais vous voyez, pour nuancer votre question, c'est pas Pierre qui les condamne à mort, c'est Pierre qui constate qu'un esprit de mort, en quelque sorte, s'est emparé d'eux par ce mensonge interne à la communauté et sur quoi la communauté ne peut pas se bâtir.
Alors, la délivrance de Pierre a souvent été utilisée dans l'histoire de l'Église pour asseoir la puissance des papes. Alors, est-ce une utilisation légitime ?
Alors, vous voyez, il y a eu plusieurs délivrances. Hein. Il y a eu plusieurs délivrances de Pierre. Celle à laquelle on fait le plus souvent allusion, C'est cette arrestation et cette venue de nuit de l'ange qui est venu les délivrer. Alors, c'est représenté à bien des endroits. Moi, je me rappelle de représentations particulièrement évocatrices dans les chambres de Raphaël, c'est-à-dire dans les palais du Vatican. Donc, on comprend bien que dans les palais du Vatican, montrer ça comme une fresque était de nature à asseoir l'autorité pontificale. Pourquoi pas, à condition qu'elle soit elle-même comprise dans les limites de ce qui est sa responsabilité, qui n'est pas d'abord une responsabilité politique. Donc on peut parler d'assistance divine au ministère du successeur de Pierre à Rome, c'est-à-dire concrètement du pape, mais vous voyez, d'une assistance spirituelle et non pas d'un bras armé qui protégerait. Et d'ailleurs, l'histoire est assez riche de persécutions aussi pontificales, voilà, pour pouvoir le dire. Donc on peut dire oui, c'est une scène qui dit quelque chose de l'autorité du pape, mais à condition de ne pas la lire, bien entendu, d'un point de vue guerrier ou politique ou militaire. Voilà comment je répondrais.
Alors, au début, cette première communauté a lieu à Jérusalem. On a l'impression qu'il y a eu beaucoup de temps avant qu'ils sortent de Jérusalem. Alors, est-ce qu'ils n'étaient pas un petit peu trop timides?
Alors, il y a eu du temps, sans doute. Il y a aussi les proportions que Luc accorde à chacune de ses parties. Il va y avoir des moments un peu plus loin dans le récit où 2 ans vont passer en 2 versets. Là, c'est un petit peu le traitement inverse, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu 1 an, 2 ans qui ont pris déjà 8 chapitres. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui va être déclencheur aussi du développement de l'évangélisation autour de Jérusalem, donc de la sortie, pour répondre à votre question, des apôtres hors de Jérusalem, ça va être notamment le martyr de Saint-Étienne, dont on reparlera à un autre moment. Ce martyr de Saint-Étienne, il n'a pas dû avoir lieu des dizaines d'années après la mort du Christ. Hein. Les gens pensent vers 35, 36, vous voyez, on est 2-3 ans. Donc effectivement, il s'est passé 2-3 ans pendant lesquels la communauté de Jérusalem a eu besoin de se constituer, de vivre. Il n'est pas complètement non plus impossible que des communautés de chrétiens se soient retrouvées un peu à l'extérieur de Jérusalem, mais comme Luc veut schématiser aussi la progression et que chaque plan est un peu étanche. Il y a d'abord Jérusalem, comme je disais, puis Judée, Samarie, etc. Mais vous voyez, quand on voit qu'un peu plus tard, Pierre va aller au chapitre 10 du côté de Césarée et puis plus au sud du côté de Jaffa, dans sa fameuse rencontre avec Corneille, on s'aperçoit qu'il est quand même hébergé chez des disciples. Donc il y a déjà eu quand même sans doute des évangélisations à l'extérieur de Jérusalem, mais qui ne sont pas citées.
D'ailleurs, on dit que Pierre passait partout.
Oui, il passait partout et il rencontrait des disciples déjà existants. Mais vous voyez, Luc, dans sa construction, a vraiment montré d'abord Jérusalem, puis Judée-Samarie, même si c'est sans doute moins étanche que cela.
Alors, on va venir à la fameuse démarche de Pierre auprès du centurion Corneille, qui est largement traitée dans ses Actes des Apôtres. Alors, pourquoi?
Parce que c'est un événement essentiel. En fait, on retient souvent ce qui s'est passé dans le chapitre 9, donc juste avant, on retient souvent le retournement de Paul, hein, on en parlera bien sûr de Paul, mais on le retient comme quelque chose d'essentiel pour Paul et puis pour l'Église, etc. Mais on peut faire une comparaison avec cet épisode de la rencontre de Pierre avec le centurion Corneille. Je le dis en quelques mots pour nos éditeurs qui ne sont peut-être pas tous familiers de ce récit, même si c'est un récit qui revient à 3 reprises dans les chapitres 10 et 11 des Actes et qu'on entend dans la liturgie. Donc voilà, c'est cette rencontre improbable de Pierre qui arrive sur la côte sud-ouest de Jérusalem et qui va être appelé, parce que ce centurion lui aussi a une vision, qui va être appelé par un centurion païen pour venir chez lui, lui parler, l'enseigner avec sa famille. Et là, il va se passer l'improbable, l'invraisemblable, c'est que Pierre, parlant de Jésus mort et ressuscité, enseignant un petit peu le centurion, la foi du centurion va presque précéder, ou en tout cas va accompagner vraiment fortement l'enseignement de Pierre, et ce centurion va vraiment vouloir recevoir le baptême et va recevoir de fait quelque chose qui ressemble à une Pentecôte. Et donc il va y avoir pour Pierre un événement tout à fait saisissant, de voir que cette famille de païens reçoit l'Esprit Saint, va recevoir le baptême, et donc va être agrégée véritablement à la communauté des croyants. Et c'est ce que Paul ne va cesser ensuite de faire dans ses missions à l'extérieur. Mais vous voyez, le nœud est déjà là. C'est peut-être même Pierre avant Paul qui devient du coup l'évangélisateur des païens. Sauf qu'après, c'est Paul qui prendra le relais ô combien.
Ce sera pas facile.
Qui ira beaucoup plus loin. Ça sera pas facile, mais ça sera énorme, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Mais vous voyez, Pierre, du coup, pour répondre à votre question, c'est vraiment Un récit central, c'est le moment où l'Église, que Pierre et les autres représentent, accueille la conversion de païens, c'est-à-dire de non-juifs, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas vécu la circoncision, qui ne respectent pas le Shabbat, etc., mais qui sont touchés par la grâce de l'évangélisation. Ça, c'est vraiment un tournant. Je crois que c'est le tournant, le cœur d'ailleurs de tous les Actes des Apôtres, parce que, comme vous le dites, ça résiste, c'est pas clair pour les juifs, c'est pas clair même pour des chrétiens païens, enfin, il y a sans cesse tout à reprendre. Mais c'est ça, c'est que la bonne nouvelle va aller jusqu'aux extrémités de la terre.
Alors pour finir cette émission, c'est important de parler d'Étienne, parce que c'est vraiment un témoignage extraordinaire. C'est le premier martyr du Christ.
Ah oui, ça, le récit, le chapitre sur Étienne, le chapitre 7 des Actes des Apôtres, est lui aussi tout à fait fondamental. Il y a beaucoup de choses fondamentales, hein, dans les Actes des Apôtres, mais il y a cet Étienne-là qui va reprendre un long discours pour expliquer aux Juifs qui finalement veulent le menacer et vont de fait le tuer, pour expliquer combien l'ensemble des promesses faites à Israël se réalisent dans la personne de Jésus, qu'il est bien mort et ressuscité, que c'est bien le Messie, enfin une catéchèse totale adressée à des Juifs, mais qui ne sera pas accueillie, et donc Étienne va vivre lui-même ce que Jésus avait vécu, et Luc insistera bien sur le parallélisme aussi des choses avec Étienne qui remet son esprit, Étienne qui demande aussi à Dieu de ne pas imputer ce crime à ceux qui pourtant l'accomplissent, exactement comme le Seigneur avait demandé sur la croix à son Père de pardonner tous les péchés. Donc il y a un vrai parallélisme, et on a le premier martyr de l'Église, le premier martyr de la foi, avec en plus, bien entendu, ce personnage qui est dans un coin qu'on ne connaît pas encore bien, qui approuve ce meurtre, qui tient les vêtements des gens qui sont en train de lapider Étienne, c'est-à-dire Saül, qui deviendra Paul. Donc il y a aussi la réalité que le sang d'un martyr va féconder ô combien l'ensemble de l'évangélisation par cette personne-là. Donc c'est des petites choses à vue humaine, mais qui sont des choses absolument gigantesques, bien évidemment, à vue divine.
Alors vous avez suivi l'émission Au Puits de Jacob, les Actes des Apôtres avec le Père Vallet, et nous continuerons dans une troisième émission. Merci.